Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu du groupe pour ceux qui ne vous connaîtraient pas?
Alors, bah, déjà, je peux te présenter les cinq membres de Super Scream. Donc, il y a Philippe à la guitare et à l'écriture des morceaux. Il y a Eric au chant et qui écrit une bonne partie des textes et qui produit. À la guitare, il y a Daniel. À la batterie, il y a Martin. Et donc, moi, Stéphane à la basse.
D'accord. Bah, a priori, tout est né de la rencontre entre guitariste et chanteur, ça j'ai compris.
Voilà, alors en fait, à l'origine, ils se sont rencontrés dans un autre projet tous les deux, ils se sont super bien entendus, et ils ont une sorte de furieuse envie de faire du métal ensemble. Donc est né le side project Super Scream, sauf qu'à l'origine, Super Scream ne devait être juste un petit délire entre copains, un simple album. Une sortie d'album et puis voilà. Ils ont pris des musiciens, des side copains pro pour enregistrer l'album. C'est pour ça, par exemple, que tu retrouves deux bassistes différents sur le premier album. Et puis, quand ils sont arrivés vers les étapes finales de l'album, bah, ils se sont dit que finalement, ça serait peut-être une bonne idée de faire vivre le groupe. Donc c'est là qu'ils ont appelé, ils ont dérogé leur téléphone et ils ont appelé les musiciens pour monter vraiment le groupe. Donc c'est là que j'ai eu mon petit coup de fil en voulant savoir si j'allais être le bassiste officiel de Super Scream. Donc à l'origine on avait un autre batteur et puis un clavier qui finalement ne sont pas restés. Et après sont arrivés Daniel à la guitare pour remplacer le clavier, ce qu'on trouvait plus efficace d'avoir un deuxième guitariste pour avoir quelque chose de plus punchy et pour laisser un peu plus d'espace à Phil qui était obligé de faire toutes les parties de guitare tout seul, ce qui est un assez gros boulot. Et nous avons après recruté Martin, notre nouveau batteur. Et donc c'est une équipe qui tourne comme ça depuis un peu plus de 4 ans.
D'accord. Tu peux nous présenter ton background?
Excuse-moi, j'ai pas entendu.
Est-ce que tu peux nous préciser ton background avant Super Scream?
Alors, j'ai commencé il y a une vingtaine d'années dans un groupe de reprise de métal avec un certain Daniel, guitariste. Donc c'est de cette époque qu'on se connaît. Je joue dans diverses formations qui ont plus ou moins marché. Depuis une dizaine d'années, je suis dans un tribute de Deep Purple qui s'appelle Into the Deep, qui marche très très bien. Et c'est à cette occasion que j'ai rencontré Philippe, qui avait remplacé notre guitariste pour une date. Et donc je suis dans Super Scream depuis 2011. Donc voilà.
D'accord. Deep Purple plutôt orienté hard rock pur métal, même si toutes les basses sont là. C'est une évolution naturelle?
Ouais, moi j'aime autant écouter un Slipknot, un Five Finger Death Punch que un vieux Deep Purple de 68. C'est juste une question de bon musicaux, quoi, d'ouverture d'envie. C'est en fonction de mes envies. Et je m'amuse autant à faire metal prog dans Super Scream que je m'amuse à reprendre des classiques de Purple sur scène.
D'accord. Tant que j'y suis, ça m'intéresse. Groupe tribute à Purple, mais Purple une période en particulier ou vous acceptez les vieux et les nouveaux?
On s'est assez ouvert parce que donc comme le groupe existe depuis une dizaine d'années, on a balayé pas mal d'époques. On joue des vieux, par exemple on joue Hush ou l'Alenia, qui sont pas forcément les plus récents. Bon, il y a la période phare où on joue les morceaux d'In Rock ou de Machine Head. On va puiser un petit peu dans le MK3 aussi avec des morceaux du style Burn, Stormbringer ou des choses comme ça. Et puis le plus récent qu'on ait poussé, il doit être sur c'est le morceau s'appelle Sometime I Feel Like Screaming. Il est sur Perpendicular. Mais on n'a pas été plus loin dans les morceaux dans les albums récents. Parce qu'en même temps, c'est tellement difficile de faire un concert d'une heure, une heure et quart de Purple sans prendre Child in Time ou Smoke on the Water que déjà tu t'égrènes pas mal de temps.
D'accord, mais donc c'est pas une volonté, c'est pas un rejet de, du Deep Purple récent, c'est une volonté, c'est que le concert il dure pas 8 heures quoi.
Voilà, c'est tout à fait ça.
D'accord, d'accord. Donc ouais, ok, non, c'est toujours intéressant de savoir. Là aussi très sans arrière-pensée. Si tu te compares à Glover ou précédemment, enfin il y a eu une petite période Hughes, etc. En tant que toi bassiste, quel plaisir ou différence ou à quel point t'essayes de les copier ou enfin voilà.
Je copie pas trop parce que déjà je joue pas en médiator. Je n'arrive pas à jouer correctement avec un médiator. Je n'aime pas trop le son que ça donne quand moi je joue au médiator. Mais c'est pas de la copie, mais une énorme source d'inspiration. Parce que la façon de faire sonner l'instrument, la façon de se positionner dans le groupe, comment bien fusionner avec son batteur pour faire sonner un maximum les rythmiques, pour que les guitaristes puissent s'éclater un maximum. C'est plus dans leur conception du placement de l'instrument plutôt que dans le style de jeu.
D'accord, ok. Bon, enfin, petit aparté Purple, tant qu'on y était. Là, je ne sais pas si tu sais me répondre. Le nom est assez surprenant, tu sais d'où ça vient ?
Supertree, hein ?
Ouais.
Si, ben, en fait, si, je peux te répondre, puisque j'ai découvert aujourd'hui. C'est Phil, dans un tourbus, qui désespérait de rejouer un jour du métal, a eu envie de crier son envie de faire du métal. Donc il s'est mis à faire un super hurlement. Voilà, c'est l'image qu'il avait, il voulait crier qu'il voulait faire du métal.
D'accord, d'accord. T'as déjà mentionné le terme, donc on va le réutiliser. Comment décrirais-tu votre style, soit par des étiquettes, ou si vous aimez, si t'aimes pas, plutôt par des groupes qui sont un peu communs à tous les membres? T'as parlé de metal prog, mais...
Ouais, pour moi, c'est metal prog. Après, c'est metal prog, mais au sens très très large, je veux dire. Puisqu'on a du jazz, on a plein de trucs, hein. On a des percus, on a de la sitar, donc ça c'est pas forcément super super prod. Par contre, c'est des morceaux un peu longs avec une certaine complexité. Donc là, je pense qu'on se rapproche du prod. Après, on a des influences, on a des goûts en commun. On est une bonne partie, même si ce n'est pas l'intégralité, à aimer Dream Theater ou Pain of Salvation ou des choses comme ça, je pourrais te parler de Megalès, de Queen Strike, de Vanguard, de Pain of Salvation, de plein de trucs comme ça, des Jim Townsend, voilà, c'est plus c'est pas des influences vraiment marquées, hein. on fait pas du plagiat, mais j'imagine que ça se ressent, ouais.
Ok. Si je reviens donc au premier album, Some Strange Heavy Sound,
oui.
Donc ça fait 6 ans.
6 ans, ouais.
Vous êtes vraiment pas rapide ou c'est les événements qui font que.
Écoute, tu mets tout dans le même saladier, tu tournes. Hein. Voilà.
D'accord.
C'est que il a fallu constituer une équipe déjà. Pour pouvoir jouer et défendre Some Strange Heavy Sound. Ensuite, on a eu nos changements de line-up. Et puis, comme Some Strange Heavy Sound devait être un one-shot, on s'est retrouvé au moment de se dire tiens, ça serait bien si on en faisait un deuxième, de n'avoir aucun morceau dans les poches. Il a fallu tout écrire, tout sortir. Il a fallu les travailler, il a fallu les faire évoluer, les enregistrer, et puis après, comme on a un guitariste particulièrement perfectionniste, l'enregistrement, le mix, le master, tout ça, ça a pris pas mal de temps. Voilà, donc c'est un peu un mélange de tout ça.
Pas mal de temps, c'est a priori, d'après ce que j'ai lu aussi toujours d'après le site, c'est 2 ans. 2015, le disque est à peu près enregistré. Si j'ai compris.
Si tu comptes le processus de création, je te dirais quand même.
D'accord, d'accord, d'accord. Ouais. Super Scream, c'est quoi ? C'est une démocratie ou c'est une oligarchie à deux chanteurs guitaristes ?
Ah non, c'est ni l'un ni l'autre, en fait. C'est quelque chose de, c'est comme une petite entreprise bien réglée, en fait, hein. On sait qui fait quoi, en fait. On utilise les talents de chacun. Les morceaux sont écrits par Phil, les textes en majorité sont écrits par Eric, et ce qui reste est écrit par moi, mais à côté de ça, Eric assume un boulot de production. Moi, je me suis occupé de tout ce qui est conception et développement du site internet. On a chacun des rôles au sein du groupe, même si par exemple la musique elle n'est pas totalement figée. C'est Phil qui écrit les morceaux, mais ils sont finalisés à 90% quand on les reçoit. On a quand même un peu une certaine marge de manœuvre pour pouvoir s'exprimer. On a pas mal expérimenté aussi en studio pour essayer de trouver des lignes de d'instruments qui se mariaient au mieux avec ce qu'on voulait faire.
D'accord.
On a essayé, tu vois, en studio on était en tandem avec Phil et on a expérimenté plein de trucs, plein de lignes de basse différentes sur les mêmes morceaux pour essayer de faire sonner au mieux. Pas pour faire la ligne de basse ultime où tout le monde serait waouh, c'est énorme, mais plutôt la ligne de basse qui va faire que le morceau il va sonner énorme.
D'accord.
Donc, on a fait ça avec la batterie, on a fait ça avec la guitare, on a fait ça avec le chant. Donc ouais, voilà, ça rajoute un peu de temps aussi. Il y a des problèmes d'emploi du temps, hein, parce que on a soit des métiers encore à côté où certains gars sont musiciens professionnels, donc qui partent sur des dates, des tournées, des choses comme ça. Du coup, on a grignoté encore un peu de temps aussi de ce côté-là.
D'accord. Et alors, au niveau label, ça a aussi bougé. Vous avez le premier album sur Brennus.
Oui, et le deuxième sur
Sandalwood. Voilà.
Oui. On était très contents du travail de Brennus. C'est juste qu'une fois l'album finalisé, on a eu envie de tâter un peu le marché, voir si on pouvait toucher autre chose. Et voilà. Donc on a eu une proposition qui nous a parfaitement convenu de la part de Sandalwood et on a signé chez eux.
D'accord. Donc vous fournissez vous le produit fini ?
Oui.
D'accord. D'accord. Et donc tout se passe bien jusqu'à présent?
Bah, jusque-là, oui, très bien. On n'a pas encore les premiers retours, hein, puisque c'est encore un peu frais. L'album est sorti le 5 mai.
Ouais.
Mais voilà, c'est comme sur les plateformes Deezer ou Spotify, on ne sait pas trop encore, on n'a pas encore eu de compte rendu là-dessus. Ça fait 3 semaines.
Là aussi, petit cliché ou pas, on se fait le délire de dire, tiens, je vais dans mon magasin du coin, je vois si le disque est en bac.
Je l'ai fait deux fois, oui.
D'accord. Et il est en bac ?
Il est en bac.
Bon, d'accord.
Oui, bah oui, là c'est juste un petit, c'est un petit kiff totalement perso et très égotique.
D'accord. Non, mais c'est, ça paraît tellement naturel, en tout cas au début, que si, voilà, mais on se demande si c'est cliché ou pas.
En même temps, il y a tel côté grisant de regarder le bac et faire fouiller dans les S et puis voir The Jing quand il sortit, on se dit voilà, c'est assez agréable quoi.
Une question en deux temps, est-ce que tu sais, est-ce que tu te rappelles quel est le premier titre qui a été composé pour l'album, et est-ce que de par ton expérience, est-ce que ça colore ou ça oriente la suite du disque?
Le premier titre pour moi qui a été le plus avancé, je te dirais Evil Cream.
D'accord.
Evil Cream, et puis il a donné un peu le ton, ouais, même si de par ça ne serait pas glissant, on savait déjà exactement où on allait, hein. On voulait pas faire quelque chose de différent, on voulait juste faire la même chose mais en puissance 10. On voulait plus partir dans le délire, donc un des premiers fut Evil Cream. Et avec ses gimmicks de guitare, ses percus, ses influences, machin, voilà, on a su qu'on était toujours dans la même direction, sauf qu'on allait aller vraiment plus loin.
D'accord. Deux clichés du métal prog, c'est album concept 1 et 2, il faut qu'il y ait des trucs qui durent 25 minutes, le titre quoi, avec un machin à tiroir, avec 50 ambiances et 50 rythmes, etc.
Ouais.
Comment vous êtes positionné par rapport à ces deux clichés-là?
Assez loin, parce que il y en a, bien entendu, hein, il y a des morceaux comme Ways Out ou The Jim Christ qui sont,
ouais.
ils sont sous la barre des minutes quand même pour du prog. Mais on voulait pas faire de la démonstration. On voulait pas faire un morceau où il y a un duel de guitare qui dure 25 minutes. C'est vraiment pas ce qu'on avait envie. Mais bon, voilà, ça reste des morceaux, certains, ouais, qui font moins de 10 minutes et qui en sont pas loin.
D'accord. Et donc, sur cet album-là, il n'y a pas eu le cas où vous aviez un titre très long et puis vous avez dit, mais finalement, on peut le découper en séquence autonome et ça marcherait bien?
Non, c'est dans le processus d'écriture, les morceaux sont venus comme ça progressivement, mais il n'y a pas eu à faire. À jouer, à couper quoi que ce soit. Non, c'est vraiment des créations ponctuelles.
Et autre question idiote, tant qu'on y est, comment on sait qu'un morceau est terminé? Parce qu'on peut toujours allonger la sauce.
Alors, avec des perfectionnistes dans ce genre-là, je serais tenté de te dire qu'un morceau n'est jamais terminé. Déjà, il peut pas l'être parce que tu trouveras toujours un petit quelque chose où tu penses que t'aurais pu faire mieux. En même temps, après, tu dis que le mieux est forcément l'ennemi du bien. Donc, si t'en fais trop, évidemment, ça ressemble plus à grand chose. Et puis, un morceau, il vit un petit peu. Hein. C'est pas figé. Sur scène, il y a des fois où il y a des solos qui changent, ou il y a des accompagnements qui changent sans remettre en question toute la structure. Hein. Mais tu te permets un petit peu quelques libertés. Donc, il y a un morceau, non, je pense qu'il est jamais. Il n'est jamais terminé. S'il est terminé, c'est qu'il est trop vieux, qu'il ne fonctionne plus et qu'il n'est pas bon.
D'accord. Je comprends la logique. Est-ce qu'il y a eu... alors, d'après ce que j'ai compris, tu as vécu à moitié les sessions d'enregistrement du premier album, c'est ça que j'ai compris?
Non, je suis arrivé juste après.
Ah, juste après, d'accord.
Ouais, juste après. Par contre, j'ai participé au tournage du...
D'accord.
Du coup, bien sûr, du deuxième là, qui va sortir.
Ouais. Des choses particulières sur les sessions d'enregistrement du disque ou pas?
Moi, c'était une première. Donc il y a plein de c'est une expérience assez intense. On se retrouve sur une chaise avec sa basse sur les genoux et puis à essayer de sortir le meilleur. Ouais, c'est vraiment une super expérience où tu découvres les morceaux un peu différemment et puis tu les réfléchis pas pareil.
Et alors,
je pense que c'est ça.
Ouais, finalement, par rapport à ce à quoi tu t'attendais, qu'est-ce qui était différent et qu'est-ce qui était comme tu t'y attendais?
Comme je m'y attendais, c'est la durée. On a vraiment beaucoup bossé. On n'a pas fait deux prises et puis en disant vas-y, c'est bon, on n'en parle plus. Il y a eu des tonnes et des tonnes de prises, il y a eu des tonnes d'essais. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que. Que je m'attendais, puisque je connais mes coéquipiers.
Et je vais être l'avocat du diable, et certains pourraient dire, en plus pour la basse, le truc qui est derrière qu'on n'entend pas.
Exactement. Sauf que si tu l'entends pas, des fois c'est plutôt bon signe. C'est qu'elle est bien collée à ta batterie et qu'elle sert à quelque chose.
Bien sûr, mais combien de mecs te disent la basse, je sais pas ce que c'est, en le son, on l'entend pas. Bon, ok.
Ouais, c'est vrai, en général, on te dit, bah si ça, bah c'est le mec, on l'entend que quand il chante.
Voilà.
non, mais oui, je sais bien, mais quand on écoute The Engine Cries, la basse, elle est pas mixée au fond, hein. Elle a son rôle, elle a son importance. C'est pas que un album de guitare, il y a une bonne alchimie basse-batterie où il y a plein de trucs importants. Hein. J'ai même eu le droit à mon solo de tapping sur The Engine Cries, parce que c'est un truc que j'avais exprimé à Phil bien avant qu'il écrive les morceaux. J'ai dit, ouais, j'adorerais faire un tapping de basse sur scène. Et puis bon, un jour, il m'a pendu le solo de The Engine Cries. On fait, regarde, tu vas en faire un. Voilà, c'était un grand moment de bonheur, quoi.
D'accord, bah oui, je devine, ouais. Un élément important, il me semble, pour le groupe, vu le soin que vous y apportez, c'est l'aspect graphique.
Oui.
Donc, la pochette de la première album était assez graphique aussi, avec cette espèce d'oiseau pas l'air en très bon état sur le dos.
Oui, il n'était pas super en forme.
Ouais, ça on est d'accord. Et la nouvelle pochette qui est dans un univers totalement différent. plus, je sais pas, psychédélique, enfin bon, bizarre. Comment ça se travaille au sein du groupe?
Alors, on avait pris, pour, je te parle de Virgin Crisis, on avait pris contact avec un graphiste qui s'appelle Karen Sionot, et qui proposait les belles choses et qui a commencé à nous inspirer, mais on n'a pas de, ça n'a pas abouti. Et du coup, on a pris contact avec Stan W. Decker. Et là, lui, on lui a envoyé donc les premiers rushs de Carationaut, et puis on lui a envoyé l'album. On lui a expliqué comment on visualisait un petit peu l'esprit, l'esprit Super Scream. Et il a bossé là-dessus et il nous a sorti ce design là de bateau. Donc nous, on lui avait dit qu'on allait bien des systèmes de machinerie, de trucs un peu complexes, l'idée de la mer aussi on avait bien, et puis Eric voulait qu'on voit de la Evil Queen dans la machine,
ouais.
Et voilà, en fait, à force de propositions, il a su attraper l'esprit du groupe, et il a bien compris exactement où on voulait aller, et voilà, il nous a proposé ce super visuel qui après il a décliné sur tout le reste de Fishback.
Bah parce que lui, d'habitude, il fait plutôt dans le power metal avec des dragons, des machins, enfin pas trop le même.
Tout à fait. Mais justement, ça prouve le talent et l'ouverture d'esprit de l'artiste. Parce qu'il est vraiment, très très bon.
D'accord.
Il fait en écoutant, je sais pas, hein, ça faudrait peut-être plus lui poser la question, mais je pense qu'il a su comprendre où on voulait aller. Et franchement, on a vraiment vraiment adoré son travail. Et on envisage de retravailler avec lui sur le DVD live qui sortira l'année prochaine.
On va en parler. Alors peut-être question, là aussi toujours idiote, hein, mais bon, j'assume.
Il n'y a pas de question idiote avec des réponses stupides.
Hein. Voilà, bon, on va faire, voilà, bon, ok, donc tort partagé. Finalement, la pochette, elle est très sympa, mais là aussi, c'est dans le jeu des étiquettes, et malheureusement, c'est un peu beaucoup le jeu des étiquettes. On s'attend plus à, je sais pas, Yes, que, enfin, en voyant la pochette, hein, qui a un truc de métal. Pour vous, ça vous a pas travaillé?
Non, mais après, c'est particulier comme exercice. Hein. Non, ça, on ne s'est pas trop posé ce genre de questions. On voulait quelque chose de steampunk, un peu dans l'esthétique. Et voilà, donc non, c'est pas. On voulait pas, par exemple, faire une pochette super sombre pour que ça colle plus avec un esprit métal, parce que après tout, c'est pas que ça.
Oui, c'est vrai.
C'est pas que ça, donc.
Mais bon.
On a essayé de faire quelque chose d'un peu ouvert, ouais.
L'essentiel, c'est que ça vous plaise, quoi.
Ah oui, ça nous plaît, puis apparemment, ça plaît énormément. On entend beaucoup parler de ce visuel.
D'accord.
On a que des compliments dessus.
Non, mais c'est vrai qu'il est super soigné. Tiens, dans votre merch, qui a eu l'idée de la boule à neige?
Eric. Parce que, en fait, c'est un truc qui est allé dans le visuel du boîtier, du DJ. Mmh. Et donc Eric s'est offert le délire de dire, tiens, on va fabriquer des boules à neige, on va vendre des boules à neige.
Et ça se vend, enfin, je veux dire.
Ah oui.
D'accord. Oui. Vous n'en avez pas 5000 et que vous devez en fourguer, je sais pas comment.
Ah non, de toute façon, on n'en a pas fait fabriquer 5000 non plus, hein, mais non, on n'est pas parti sur des trucs complètement ahurissants, mais voilà, on a, il y a des groupes qui, voilà, on peut vendre du merch standard avec un t-shirt ou un autocollant, mais voilà, le truc drôle, c'est que, voilà, on peut avoir une boule à neige aussi.
Non, et bien sûr.
J'ai bien trouvé un groupe de métal qui propose une boule à neige.
Oh, bah, il y a bien Manowar ou Slayer qui ont fait des choses débiles, mais j'avais pas vu la boule à neige encore.
Oui, c'est vrai. Et voilà, bah nous on a innové avec la boule à neige.
Super collector.
oui.
Donc tu l'as mentionné, donc j'ai envie de dire, là aussi question de parties. Donc vous préparez un futur DVD live?
Ah, on fait plus que le préparer, puisqu'il est déjà tourné.
D'accord.
C'est un concert qu'on a donné et sur lequel on a vraiment bossé la scénographie et le visuel. Parce qu'après, on part du principe que Super Scream, ça s'écoute, mais ça se regarde aussi. Et
donc, enregistré où?
à Notre-Dame de Gravenchon dans une salle qui s'appelle l'Arcade, c'est à côté du Havre, donc dans notre région. Et on a fait une belle résidence d'une semaine, on a eu largement le temps de travailler, de peaufiner, de se creuser la tête, de poser nos décors, parce que on a des décors. On a de la scéno, on a de la fumée, on a de la lumière, on a des objets, des accessoires, voilà. Il y a même des gens qui arrivent à repartir avec des souvenirs de super screen quand il y a le concert.
D'accord.
Et voilà, donc il est bien avancé, mais pour l'instant il est un peu on l'avait mis un peu en pause pour la fin de l'album. Et puisqu'on n'a pas l'intention de le sortir dans les 6 prochains mois.
C'est plutôt 2018 alors.
Ouais, ça sera dans un an et demi, ouais.
Vous savez chez qui vous le sortirez?
Non, pas encore, mais on a déjà fait des contacts. On a déjà fait des bons contacts. Et on pense aussi faire bosser Stan sur le visuel de ce DVD-là.
D'accord, ok. Okay. Finalement, donc tu disais, vous êtes donc de la région autour du Havre, c'est ça?
Autour de Rouen, oui. On est plutôt sur Rouen.
Ah, vous êtes plutôt sur Rouen.
Voilà, on est sur Rouen.
Ouais. Alors, en général, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la scène métal normande plutôt rouennaise? Et cette proximité à l'Île-de-France, c'est un avantage ou un inconvénient?
La scène métal normande, il y a d'excellents groupes, mais très peu de réels endroits pour jouer. Donc là, par exemple, pour aller jouer à l'arcade de Rouen, il y a un peu plus d'une heure de route. Il y a des scènes sympas hein, sur Rouen. Il y a 106 ou des choses comme ça, mais il n'y a pas beaucoup d'endroits vraiment pour jouer. Et la proximité de la région parisienne, je pense que ça peut être qu'un atout. Hein. On peut en une heure et demie, on peut être là. Hein. Donc on peut venir jouer en région parisienne très facilement, sans mettre en branle une logistique incroyable. Pour moi, c'est qu'un avantage.
D'accord. Et au niveau concert, là, il y a quoi dans les tuyaux?
Alors, on cherche un tourneur pour le moment. Donc, on n'a pas toute une série de concerts à annoncer. Mais on a eu une proposition très alléchante pour une première partie que nous avons acceptée. Et on devrait avoir la réponse du management, la réponse définitive dans la semaine.
D'accord. Donc, il faut suivre Facebook pour avoir l'info, quoi.
Voilà, tout à fait. Donc un petit concert en juin, fort sympathique, avec un groupe qu'on apprécie, qu'on aime bien, et qui, je vais te donner un tuyau, qui n'est dans aucun de ceux qu'on a précités.
C'est Fate Warning, non? Qui passe?
Ah, je n'en dirai pas plus.
D'accord. Bon, enfin, normalement, là, ouais, enfin, je sais pas, j'allais dire l'interview, je sais pas quand je vais la publier, mais bon. Enfin, il y a Fate Warning qui passe pas loin dans les Yvelines bientôt. Bon, bref.
D'accord.
J'ai rien dit. Si tu savais pas. Juste pour terminer, tu disais aussi, vous avez un clip dans les tuyaux?
Alors, il est fini.
Ouais.
Après, on a un léger détail technique à régler pour le mettre en ligne, mais c'est une question de jour. Là, dans les prochains jours, ça sera fait. Un clip qui...
C'est quoi, scénarisé, le groupe qui joue, ça, les deux?
Les deux. C'est scénarisé, on a les cinq musiciens qui sont mis en personnage, on joue des personnages différents, et il y a des passages qu'on joue, et le clip en lui-même dure d'à peu près 9 minutes 30. Mais c'est il n'y a pas un démarrage de musique tout de suite, voilà, on pose un petit peu le contexte, l'atmosphère, l'ambiance du truc, hein. et c'est le clip, c'est sur la chanson de The Engine Price.
D'accord. Ça reste une expérience amusante ou aussi une plaie, parce que comment refaire 25 000 fois les mêmes choses?
Non, ça reste drôle, ça serait pas drôle, on ferait pas. Ça reste une passion, hein, donc tu peux commencer pareil sur le site, hein, dans la section des vidéos, il y a les teasers.
Ouais, c'est ça, il y a au moins 3 teasers, mais donc c'est extrait du. D'accord.
Ouais, il y a du clip et du DVD.
Ah, bah voilà. D'accord. D'accord. Juste pour terminer, on a un petit quiz. Alors, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, c'est tes goûts, donc ça peut être que bon.
Qu'est-ce que je peux gagner?
Rien.
Ah bon, d'accord.
C'est ça. C'est toujours difficile, mais chanson préférée tous les temps?
Welcome to the Jungle.
D'accord. Premier album rock acheté?
Killers, de Maiden.
D'accord. Le dernier?
Le dernier. dernier Pain of Salvation.
D'accord. Quelle a été l'étincelle pour toi qui a fait t'orienter vers la musique?
Un concert Metallica, Jason Newsted devant moi qui fait un saut de basse. J'ai fait wow, ça peut faire ça.
Même si le bassiste, j'ai l'impression que c'est un peu le parent pauvre du groupe.
Il paraît, mais j'y crois pas.
D'accord.
Non, je trouvais ça génial parce que justement, il y a un côté, j'aime ce côté non démonstratif. Pas de solo toutes les 3 secondes, mais un côté terriblement efficace et essentiel.
D'accord. D'accord. Imagine pour le prochain disque, t'as le choix, vous avez le choix, mais c'est plutôt toi que je pose la question, d'un invité, mort ou vivant.
Ah, ça serait intéressant. Portnoy.
D'accord. Il, à mon avis, il est dispo, cher, mais dispo.
Voilà, c'est ça. Ouais, voilà, Portnoy.
D'accord, ok.
Ou Russell Allen.
Ah, ouais, ok, d'accord.
Voilà.
Et finalement, dernière question, imagine que tu as la possibilité demain de jouer n'importe où dans le monde, n'importe quelle salle, il y en a une qui te fait envie?
Ah oui, je joue FS.
D'accord, ok. Voilà. Mais message spécial à Ben Barbo.
Voilà, tout à fait, j'adorerais jouer FS.
D'accord, ok. Bon,
Même une tente à 10h du matin le vendredi, je viens.
D'accord, ok. Bon, je suis sûr qu'il écoute, il va écouter cette interview, donc le message est passé.
Eh bien, écoute, je l'espère, je le souhaite.
Merci beaucoup, et puis tous mes voeux pour les semaines qui viennent.
Eh bien, je te remercie beaucoup, et puis bonne fin de journée.
Merci, et donc on se voit en première partie de Face Warning.
Ou autre.
Ou autre. Allez, ciao.
Salut.